Espace Prof est de retour pour une deuxième saison avec son balado. Nous vous présenterons chaque mois des entrevues avec des gens du milieu de l'éducation. Des gens passionnés, motivants, positifs, engagés. Bref, nos merveilleux collègues qui inspirent la future génération. Bonne écoute! Alors, bonjour Caroline, merci d'avoir accepté de venir nous jaser ce matin.
Bonjour, ça fait plaisir.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire t'enseignes où, à quel niveau, nous parler de toi un peu?
Donc, je m'appelle Caroline Groslot. Je suis enseignante de français au secondaire. J'enseigne à l'école Marguerite Bourgeois de Châteauguay et j'enseigne présentement un groupe de première secondaire et deux groupes de troisième secondaire.
Pourquoi est-ce que tu as choisi l'enseignement? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, là? Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui a fait que t'es rendu où t'es rendu présentement?
C'est une histoire un peu drôle. Je dirais que, on dirait que j'ai toujours su que je voulais devenir enseignante, d'aussi loin que je me souvienne. Puis on a même des preuves, des photos à l'appui à la maison de ça. Que je jouais avec mes poupées, je les plaçais pour donner des cours à mes poupées puis à mes toutous. Les fameux jouets, les tableaux qu'on reçoit des fois, là. Donc, il y avait un côté tableau noir, un côté tableau blanc, puis là, je m'inventais déjà en train de donner des cours, d'écrire la date, puis des choses comme ça. Fait qu'on dirait que je suis juste allée dans cette voie-là. Puis au secondaire, le français, c'était ma force aussi. Puis là, je me suis dit, ah, ben, tant qu'à choisir un métier, on va y aller dans quelque chose dans laquelle je me sens compétente, puis quelque chose que j'aime. Puis j'ai envie de transmettre mes connaissances, j'ai envie d'être dans un milieu qui bouge. Je suis pas une personne qui reste assise toute une journée de temps. J'ai besoin de bouger, de faire différentes choses dans une journée. Fait que, OK, on va aller dans cette voie-là. C'est ce que j'ai décidé de faire.
Ça fait combien de temps que tu enseignes?
C'est ma troisième année. Donc, ça fait officiellement maintenant 3 ans que j'ai terminé mon bac. Puis j'enseigne depuis septembre 2018. J'ai fait un petit peu de suppléance avant. Mais pas beaucoup. J'avais décidé de pas faire de suppléance pendant mon bac, de vraiment me concentrer sur mes stages. Puis j'ai commencé aussitôt que j'ai terminé le bac. Puis en septembre, j'avais déjà mon premier contrat qui était un 90% de tâches, mais on s'entend que donc j'avais quand même 3 groupes, puis c'était important
c'était
quand même.
120% quand même.
Voilà. Ouais, c'était quand même un premier gros contrat.
Oui. Les premières années, le temps de comprendre tout le fonctionnement et tout, là, c'est beaucoup plus que 90%, effectivement.
Ah oui. Effectivement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'implication aussi. C'est même si on n'est pas on devrait pas faire ça, on devrait s'allouer des fois du temps pour se reposer, mais de travailler la fin de semaine beaucoup le soir aussi. Pour être sûr,
c'est difficile de trouver l'équilibre, effectivement.
Ben moi, je suis aussi une éternelle insécure. Je veux que tout soit parfait. Je veux que mon cours soit bon. Je veux corriger dans des délais raisonnables. Je veux pas que les élèves trouvent ça long. Fait que peut-être que je m'en demande beaucoup aussi. Mais la première année...
T'imposes une certaine pression, ouais.
Ouais.
Ben quand on travaille avec les élèves, effectivement, on a envie de leur donner le meilleur possible. Hein. Je pense que c'est là que c'est difficile de trouver où lâcher prise, je crois. Parlant justement de ces difficultés-là, là, est-ce que tu peux me parler des difficultés de ton métier? Ça peut être aussi de ton milieu. Parfois, c'est en lien avec notre tâche ou notre école ou notre matière. Qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile? Je te sens très heureuse et épanouie dans ton métier, mais on a tous des choses qui sont un peu plus difficiles. Peux-tu m'en parler?
Je pense que la première difficulté vient de moi, en fait. Justement, comme je l'ai dit, je suis une personne qui s'en demande peut-être un peu beaucoup. Je suis assez exigeante envers moi-même. Je suis facilement aussi pas contente. Par exemple, quand je suis en stage, si je faisais une petite erreur ou il y avait quelque chose qui allait pas bien, moi, je trouvais que c'était un cours horrible puis que j'étais vraiment pas contente. Puis là, à chaque fois, mes enseignants associés qui m'accompagnaient étaient comme « Mais non, c'était pas un mauvais cours, mais tu sais, fais attention à ça. » Mais il y avait 90% peut-être de choses qui étaient bonnes, cette chose-là que toi, t'as pas aimé, mais t'as appris à travers.
C'était le 10% qui venait te chercher, là.
Ouais, moi je pourrais avoir 100 commentaires positifs et un négatif, puis je focus seulement sur le commentaire négatif. Là. Donc c'est peut-être ce côté-là. Je suis facilement aussi émotive, je dirais, fait que des fois, on peut voir, mettons, quand je suis pas contente ou quand je suis stressée ou des choses comme ça. Fait que je trouve que le principal défi est avec moi-même. C'est d'essayer
c'est
de...
C'est pas avec l'environnement de travail ou rien, c'est vraiment à l'intérieur de toi, finalement.
Ouais, si je fais une erreur, je m'en veux, puis là, c'est pas une bonne journée, puis là, je suis pas contente, puis... tu sais, si j'ai, par exemple, je réussis pas à faire tout ce que je voulais faire cette journée-là, ben là, je trouve que c'était pas une bonne journée, puis je suis pas contente. Fait que, ouais, non, je dois lutter contre moi-même, puis la confiance en moi aussi, beaucoup. Ça a toujours été un de mes défis, peu importe les sphères de ma vie, je dirais, peu importe l'activité que je fais, mais ça me suit encore mon métier. Je pense que j'ai appris beaucoup quand même à travers le temps, mais des fois, il y a des petites journées où je fais comme « Oh, OK! » Je me sens un petit peu moins confiante, mais il faut que je pense au positif, là. Il y a plein de choses qui vont bien aussi.
Et c'est quoi tes stratégies pour gérer tout ça, justement, comme au quotidien, quand ça t'arrive, là, que tu dis « Oups, je suis en train de me concentrer seulement sur, mettons, le seul commentaire. » Qu'est-ce que tu fais?
Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'essaie de réfléchir au bon côté aussi, puis à qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette semaine-là, dans cette journée-là, puis... Je dirais, j'essaie de me concentrer aussi sur l'énergie des élèves. Je pense que ça va quand même bien avec eux aussi. J'ai un bon accueil quand j'arrive en classe. On peut rire, on a du plaisir en classe. Fait que des fois, c'est d'essayer de repenser à ces petits moments-là puis faire comme, OK, c'est pas tout noir. Il y a pas juste du négatif. Il y a des belles choses aussi qui se produisent.
Effectivement, les élèves nous apportent beaucoup. Des fois, c'est eux qui nous apportent les soucis, mais ils nous apportent aussi beaucoup de positif.
Mais on apprend beaucoup à travers eux. Mais justement, je trouve
effectivement
une autre source d'apprentissage. Je dirais pas que c'est un défi du milieu, mais j'ai la chance de travailler dans un milieu qui est très multiculturel, donc à Châteauguay. Puis ça, oui, ça a ses défis des fois, notamment la barrière de langage avec certains élèves. Moi, je les vois tous les jours. Le cours de français, c'est pas un cours qui est facile. C'est un cours qui est super important aussi. Ouais. Donc des fois, ça peut être un défi aussi parce que je parle pas énormément d'autres langues. Je parle l'anglais. J'ai une petite base d'espagnol du secondaire, mais c'est comme très, très loin. Donc, des fois, ça peut être un défi aussi avec les élèves, surtout dans le cours de français, justement. Donc, mais je trouve qu'en général, ça apporte beaucoup de richesse à ce milieu-là. Je trouve que les élèves ont tellement des histoires différentes qui nous partagent des cultures différentes que je trouve ça vraiment intéressant.
Effectivement. Et le fait de les voir régulièrement, tu les vois là comme tous les jours, ça doit aider à tisser le lien, à apprendre à les connaître, puis ça doit aider à l'apprentissage déduit.
Oui, mais c'est aussi de prendre le temps de parler avec eux. Moi, il y a toujours du temps au début de la période où je leur demande vraiment comment ça va aujourd'hui, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, puis qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, en semaine de relâche, puis on prend le temps de jaser, puis tout. Je pense notamment au retour des fêtes où est-ce qu'on était en virtuel, puis les élèves m'ont montré les cadeaux de Noël qu'ils ont reçus. Là, je parle de mes secondaires 1. Mes secondaires 3 sont peut-être un peu moins dans cet aspect-là, mais secondaire 1, le lien est très facile à aller chercher. Secondaire 3, il cache peut-être un petit peu plus ce qu'ils ressentent.
Mais il faut quand même les questionner, c'est juste un petit peu plus difficile.
Ouais, mais ce qui est facile avec mes secondaires 3 cette année, c'est que j'ai eu la chance d'enseigner 3 ans à la même école, donc je retrouve les élèves de ma première année. Okay. Fait que le lien est déjà fait. On pense à des histoires qui sont arrivées il y a 2 ans, des fois, puis on en rit encore, puis on se connaît, on sait aussi qu'est-ce qui est acceptable, de quoi on peut rire. Les élèves me font des farces aussi. On parle beaucoup de ma grandeur, entre autres, là, je suis pas très grande, fait que ouvrir le projecteur, allumer le projecteur en pesant sur le bouton, j'ai besoin d'un élève pour faire ça. On fait souvent des phrases.
Ah, puis en secondaire 3, ils sont pas mal grands, là, rendus là, fait qu'il y en a un paquet qui doivent te dépasser. J'avais la même affaire en passant. Moi, souvent quand j'avais des secondaires 3, 4 ou 5, ben là, tout le monde me dépassait, là. J'arrivais aux épaules de tout le monde.
Mais c'est ça, je trouve que la création du lien, c'est super important. Puis c'est aussi prendre le temps de parler de ce qu'on aime faire à l'extérieur. Tu sais, ma passion, c'est pas juste de lire, d'écrire, puis d'enseigner la grammaire, puis les participes passés. Je fais d'autres choses dans ma vie. Je joue de la musique. Fait que c'est de prendre le temps de parler de ce qui nous intéresse, le film qu'on est allé voir, dans le temps qu'on pouvait aller au cinéma. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on regarde comme série, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, ça développe des liens aussi, beaucoup.
On apprend aussi leurs intérêts en discutant comme ça. Puis des fois, ça vient même teinter les projets qu'on va faire en classe ou les sujets qu'on va leur donner d'écriture ou autre. Effectivement, là, d'aller dans leurs intérêts, mais les nôtres aussi. Tu sais, souvent, j'aimais bien leur présenter des textes ou des choses que moi, j'aimais, puis pas juste y aller avec ce qu'ils aimaient, parce qu'ils seraient jamais allés voir le texte que je leur présentais, mais parce que j'en étais passionnée puis j'en avais discuté avec eux autres, ben là, ça développait un autre intérêt. Fait que ça va des deux côtés. Des fois, faut aller chercher, faut s'intéresser à ce que eux font puis les intéresser à ce que nous passionne aussi, je pense.
Ouais, puis c'est une façon de se garder renseigné aussi sur ce qui passionne les jeunes puis de découvrir des nouvelles choses. On apprend tous les jours avec eux. J'apprends à connaître des artistes que je connaissais pas nécessairement avant. Mm-hmm. Fait que... C'est très enrichissant, je pense, pour les deux côtés. On apprend autant qu'on leur apprend, je pense.
Tellement. Je suis tellement d'accord. On entend beaucoup de profs qui quittent le métier, surtout dans les premières années. Toi, t'es justement là-dedans, là, t'es dans tes cinq premières années dans l'enseignement. Est-ce que ça t'est arrivé à toi de penser à quitter? Puis si oui, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée qui fait que t'es encore là puis encore aussi passionné?
J'ai eu cette réflexion-là quand j'étais à l'université en train de faire mon bac. Surtout les stages, j'ai pas eu des stages qui étaient super faciles. Je pense que il y a une partie là-dedans qui était aussi un peu de ma faute, peut-être pas toujours bien préparée, peut-être trop stressée. Puis je trouvais ça vraiment difficile. Ça va un peu avec ce que je disais tantôt aussi. Moi, aussitôt qu'il y a une petite chose qui fonctionne pas, ça me rendait triste, puis j'aimais pas ça, puis j'étais donc fâchée contre moi-même alors que j'étais en train d'apprendre. Mais à ce moment-là, j'étais comme « Oh non, j'aime pas ça, je suis pas bonne. Ça a mal été aujourd'hui, c'est pas fait pour moi. » Là, finalement, plus le bac avançait, plus j'étais comme « Ouais, mais ça m'intéresse quand même. » Puis des fois, il y avait des bonnes périodes aussi. Puis je me disais « Ah, oh, ben là, aujourd'hui, ça a bien été, je pense que j'aime ça. » Fait que chaque jour était différent. Là, à un moment donné, t'avances dans tes cours à l'université, les cours étaient vraiment intéressants, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, j'ai fait comme, ben là, je suis à plus que la moitié de mon bac, je me vois pas lâcher avant la fin, fait qu'on va persévérer, on va rester jusqu'à
la fin. On va se rendre à la fin.
On va voir après qu'est-ce qui va se passer. Puis je me suis rendue, puis ça a bien été, puis je suis vraiment fière de tout ce que j'ai fait. Je trouve que mes stages m'ont permis aussi d'apprendre sur une variété de niveaux. Donc, le seul niveau que j'ai pas fait en stage, c'est secondaire 4. Différents milieux aussi, je suis allée autant en privé qu'au PEI. J'ai fait du sport-études, puis j'ai eu une classe de team teaching aussi.
Donc, okay, wow, t'as vraiment eu une variété, là.
Ah non, c'est fou, j'ai été chanceuse, j'ai vu plein de choses. Puis, fait que c'est ça, j'ai décidé d'y aller jusqu'au bout. Après ça, j'ai fait, OK, je vais commencer à faire de la suppléance. Puis finalement, en septembre 2018, j'ai décidé de me lancer. Puis finalement, je me sens bien à ma place.
Fait que c'est pas quelque chose qui te passe par l'esprit, toi, de quitter... Tu as l'air de travailler un paquet de choses sur toi-même, même avec ton métier, puis de t'épanouir en classe, c'est ce que j'entends. Fait que donc, je pense pas que c'est quelque chose qui t'affecte, ce côté-là. Donc, on va te garder longtemps, longtemps.
Je pense que oui. Ben, on sait pas ce qui nous réserve en même temps, mais je me sens vraiment bien à l'école où je travaille aussi. Je pense que le milieu y est pour quelque chose. J'ai des collègues qui sont vraiment formidables. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de super important aussi. C'est un conseil que j'ai donné dans un de mes billets de blog. Justement, c'est de parler à tout le monde, d'être à l'écoute des conseils, d'aller vers les gens. Nos collègues sont là pour nous aider. Puis on dérange pas, là. On est là pour jaser, on est là pour s'entraider entre nous. Puis je pense que ce milieu-là m'a vraiment réconciliée avec le métier aussi. Parce que quand j'ai fini mon stage 4, j'étais un petit peu triste. J'avais pas vraiment aimé l'expérience. Puis là, d'arriver à cette école-là, ensuite de ça, puis de me lancer, de me rendre compte que ce milieu-là, je l'aime. Je me sens bien dedans, je me sens utile. Puis en plus, je suis entourée de plein de bonnes personnes. Ça fait comme, OK, là, je suis à ma place.
C'est super important, le milieu. Ça revient à chaque entrevue que je fais pour Espace Prof. Moi, j'ai un milieu que j'aime, je suis bien, je suis à ma place. Mon équipe de collègues s'entraide. Ça revient tout le temps comme étant essentiel. Puis c'est un conseil qu'on avait donné à plusieurs reprises quand on n'est pas bien dans un milieu ou un niveau ou avec, ben on peut changer. C'est une des beautés en enseignement. Il y en a d'autres écoles. Fait qu'on ouais. peut on peut essayer un autre milieu puis là trouver notre place. Je me souviens entre autres d'une des enseignantes qui avait donné une entrevue. Elle disait qu'elle avait passé par exemple du secondaire 3 à secondaire 2 et là tout à coup en secondaire 2 elle était ultra heureuse. Elle avait trouvé le programme intéressant, les élèves de cet âge-là, ça venait la rejoindre plus. Des fois, ça peut être à même la même école, un niveau, fait que si on se sent pas bien dans l'enseignement, des fois, c'est peut-être d'aller essayer autre chose dans l'enseignement, puis c'est peut-être pas l'enseignement dans sa totalité qui est la problématique.
Des fois, ça peut être au niveau même de la matière qu'on voit aussi. Donc, je me verrais pas super bien enseigner en secondaire 5. Je me rappelle, comme élève, j'aimais pas beaucoup le texte argumentatif. Comme prof, je trouve que c'est des longs textes, puis personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je suis plus une littéraire, donc moi, ça me passionne vraiment de travailler tout ce qui est les récits, le conte, la légende, le mythe, même le théâtre, j'aimerais ça l'enseigner aussi, mais j'ai pas vraiment eu la chance de le faire, mais ça me passionne beaucoup plus que ce qui est texte courant, argumentatif, des choses comme ça. Fait que je me verrais mal en secondaire 5 où est-ce que le texte argumentatif prend une grande place du programme cette année-là. Je pense que je serais pas contente. Je serais pas bien.
Moi, puis tu vois, puis pour d'autres, ce serait peut-être le contraire. Tu sais, que eux, l'argumentatif et tout, puis débattre, et c'est quelque chose qui les passionne, puis ils seraient plus heureux que dans ta situation. Tu sais, il y a un côté où il faut apprendre à se connaître. Tu as parlé de ça au début, là, que tu te connais, tu le sais que tu as telle tendance, mais il faut apprendre à connaître ce qui nous intéresse aussi, puis à faire des choix en conséquence. Puis c'est de même qu'on est heureux, je pense.
Ouais, puis il y a aussi le choix du milieu. Justement, quand je disais que je me suis un petit peu promenée en stage, j'ai fait du privé, je suis allée au PEI. J'ai adoré l'expérience du PEI comme élève. Donc, programme d'éducation internationale. Moi, j'ai aimé ça beaucoup pour l'aspect des voyages, apprendre l'espagnol. L'enrichissement aussi, c'était un programme qui allait vite, mais on voyait beaucoup de choses, puis on faisait plein de projets vraiment intéressants. Mais comme enseignante, je me sens plus à ma place dans une école régulière. J'ai l'impression de pouvoir aider les élèves, puis que chaque petite réussite est vraiment intéressante, puis je me sens mieux dans un milieu comme ça que d'aller dans un milieu ultra compétitif comme le PEI ou comme le privé.
C'est génial que tu aies pu justement l'essayer en stage, donc accompagner en plus, puis dans une posture où tu peux poser tout plein de questions, puis être en mode « j'apprends pas, je dois performer dans une heure, puis on m'envoie dans la classe, là ». Quoi qu'on peut quand même poser des questions un coup qu'on a un contrat, mais tu as pu le voir dans accompagner avec tu sais les questions qu'on peut poser, les interrogations, puis vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui te plaît. Je pense que les stages, ça devrait quasiment être une obligation d'avoir vu différents milieux. Tu sais, s'il y a 4 stages, ça devrait être 4 milieux différents pour te permettre d'aller chercher de l'expérience. Moi, j'ai supervisé des stagiaires, puis j'avais plusieurs stagiaires qui se retrouvaient, par exemple, dans un stage en adaptation scolaire, ce qui pouvait faire peur à certains. Moi, c'était en anglais, langue seconde, mais ça se pouvait qu'on ait des contrats en adaptation scolaire. Et si tu l'as jamais vécu, ben t'as aucune idée de ce que c'est. T'as aucune idée si ça pourrait te plaire. Et là, de le vivre accompagné d'un prof qui te guide, puis qui a de l'expérience, puis qui va te donner ses astuces, sa philosophie, ben au pire, ça va te dire que c'est pas pour toi. Puis sinon, ben ça va t'avoir donner le goût de te lancer, puis quelque part au milieu, ça va te donner du bagage qui va peut-être te servir plus tard, puis t'amener une conception autre. Fait que je trouve ça vraiment génial que tu aies eu la chance d'essayer plusieurs milieux. Je pense que ça devrait être ça pour tous. Essayons, c'est le temps d'un stage d'essayer.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça à 100%. Quand j'ai eu l'appel justement de l'université qui me disait qu'il voulait m'offrir un stage pour le collège privé, c'était au collège Charlemagne, j'ai fait comme « Ah, ben certain, ça va me faire plaisir d'essayer ça, comme je pensais pas, mais ça fonctionne un peu avec les résultats aussi à l'université puis avec la moyenne. Donc, quand tu as une certaine cote, tu peux te qualifier pour ce type de stage-là. La même chose pour les stages à l'étranger aussi. Okay. Donc, c'est considéré comme des milieux particuliers. Puis là, ben, je me suis qualifiée pour ça, puis j'ai décidé de sauter sur l'occasion puis de l'essayer. pour finalement me rendre compte, ben, peut-être dans quelques années, je dirais pas la même chose, mais pour l'instant, j'aime bien le public. Puis, je me sens à l'aise.
Mais tu l'as vécu, fait que tu as pris une décision éclairée parce que tu n'es pas allé avec ce que tu as entendu, tu l'as vécu, fait que c'est vraiment génial. Tu nous en as parlé déjà au travers des différentes questions que je t'ai posées, de la beauté de ton métier, le lien avec les élèves et tout, mais parle-nous du positif d'être enseignante, pourquoi c'est un beau métier, une belle profession?
C'est un beau métier, une belle profession parce qu'on apprend chaque jour sur une variété de sujets. On apprend sur nous-mêmes, on apprend sur les jeunes, on apprend ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. C'est aussi un beau métier, moi, je trouve, justement, parce que chaque journée est différente. Même si t'es dans la classe devant des gens, t'enseignes pas toujours la même chose, pas toujours de la même façon. On peut jouer avec les approches. On peut décider qu'aujourd'hui, on y va avec quelque chose de plus magistral. Donc, un cours où est-ce que je donne vraiment des notes de cours, puis le lendemain, je pourrais aller avec quelque chose de complètement éclaté, où est-ce que les élèves doivent deviner un peu c'est quoi notre sujet ou des choses comme ça. J'essaie plein de choses aussi, moi. Donc, bingo des verbes, des fois, pour leur faire apprendre leurs verbes, ou sinon le jeu d'évasion avant Pâques, parce que je trouve que ça fait du bien, des fois, des petites périodes où est-ce qu'on s'amuse ou des choses comme ça. Fait que je trouve que chaque journée est différente. Puis, c'est aussi l'aspect humain qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est que, oui, on a 28 élèves devant nous, mais des fois, on a du individuel à faire. On apprend à tisser des liens qui sont vraiment intéressants. Puis, je pense qu'on peut avoir un impact dans la vie de ces personnes-là aussi. Donc, on a tous un enseignant qui nous a marqué. Puis, je pense qu'on peut avoir un impact où on peut au moins peut-être changer quelque chose un petit peu dans leur journée. Peut-être pas nécessairement dans leur vie, mais dans cette journée-là.
Effectivement. On a l'impression d'avoir un impact. Puis des fois, on le voit pas l'impact. Ça peut être des années plus tard qu'on se fait dire, ben vous avez eu un impact sur ma vie. Des fois, on le saura pas, mais on a eu un impact, puis la personne va pas nécessairement venir nous le dire. Mais on le sait qu'on a semé quelque chose un peu partout. Puis ça, c'est le fun de savoir qu'on fait une différence.
Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup citer cette phrase-là, mais en tout cas, très grande fan. Hey, ça va être bizarre de citer ça dans une entrevue. Mais des filles de Caleb, quand elle parle à son père de son métier de maîtresse d'école, on va dire ça, puis elle dit qu'elle a l'impression qu'à chaque semaine, les jeunes en savent plus que la semaine d'avant, grâce à elle. C'est quand même spécial aussi comme sentiment de se dire « Ah, mais cette semaine, ils ont retenu ça, puis c'est moi qui leur ai montré. »
Oui, c'est une belle fierté, effectivement. Depuis un an, on vit de toutes sortes d'impacts dans les écoles là, avec la COVID. Toi, de ton côté, ça a eu quoi comme impact? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, mais aussi dans ta pratique? Parce que tu as peut-être dû basculer à distance ou faire des journées sur deux. Toi, ça a eu l'air de quoi?
Ouh là là! Ben, je veux dire, l'année passée, quand ça a commencé, c'était seulement ma deuxième année d'enseignement. Donc, c'est un drôle de début de carrière, je dirais, là. Je vais avoir eu une année normale sans COVID. Puis, fait que c'était particulier, je dirais. Puis là, les écoles ont fermé l'année passée. En mars, il y a eu la zone floue. Est-ce qu'on savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai quand même gardé contact avec mes élèves. Puis ensuite de ça, on a commencé les cours à distance. Puis c'était un défi à gérer. Je dirais que niveau technologie, je suis pas celle qui en connaît le plus. Mais ça m'a appris beaucoup aussi. Par exemple, comment faire des capsules, des choses comme ça. Donc, j'y allais vraiment avec des capsules de correction, des trucs comme ça. Puis, ça m'a appris comment les faire, qu'est-ce que je dois utiliser comme outil. Je suis quelqu'un de très perfectionniste aussi. Donc là, moi, les bafouillages, je faisais du montage, je les enlevais, j'enlevais les bouts que j'aimais pas. Oh non, ça, c'était pas beau, cette phrase-là, on recommence. Mais, fait que oui, ça m'a appris toutes sortes de choses. Puis là, cette année, effectivement, on a eu un peu du à distance avec les groupes qui ont fermé. J'ai eu deux groupes qui ont fermé à cause de la COVID cette année. Mm-hmm. Puis, il y a aussi le mode hybride, donc là, un jour sur deux que je vis avec mes secondaires 3 encore présentement. Mais finalement, au début, on se disait « OK, ça va être difficile à gérer tout ça. » C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. J'ai l'impression qu'on a planifié et replanifié et re-replanifié cette année. C'est que ça qu'on fait. C'est très difficile de voir à long terme aussi. Ça a été le...
Parce qu'on sait pas, tu sais pas si ta classe va fermer, tu sais pas s'ils vont pouvoir revenir à 100% à l'école. Donc, faut toujours que tu te réajustes.
Ouais, c'est très dur de dire, OK, cette date-là, on met une évaluation parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Mm-hmm. Fait que, OK, on peut décider que c'est cette date-là, mais on sait jamais vraiment si c'est ça qui va se passer. Fait que c'est difficile. On a dû se réajuster beaucoup, refaire nos planifs. On y va vraiment à court terme. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça... Ouais, c'est une autre organisation. Moi, j'aime ça, savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Puis ça me stresse un peu. Ça m'a insécurisé cette année aussi d'y aller vraiment plus à court terme. Pour le mode hybride, par contre, c'est ça que je disais. Donc, au début, on n'était pas sûr qu'on allait apprécier. Finalement, je pense qu'il y a quand même des points positifs, puis les élèves aussi voient une espèce d'équilibre entre il y a des journées où on va à l'école, puis on voit nos amis, puis le lendemain, on peut dormir plus tard, puis on est à la maison, puis on peut rester habillé en mou. Tu sais, même eux me font rire quand ils disent « Ah, mais finalement, on déteste pas ça tant que ça. » Puis même pour nous aussi, ça fait des périodes qui sont un petit peu différentes, donc c'est des périodes qui sont peut-être un petit peu plus calmes, où est-ce qu'on est plus... assis devant notre ordinateur ou des choses comme ça, puis ça compense pour les périodes où est-ce qu'on doit courir un peu partout. Fait que moi, je trouve qu'on y voit quand même une belle balance à travers ça. C'est sûr que je trouve difficile quand les élèves ne participent pas dans les cours à distance. Donc, on voit que sur Teams, la pastille avec le nom de l'élève, mais l'élève se manifeste pas dans la période. Ça, je trouve ça dommage, pour vrai.
Là, le lien, il est pas mal moins là, là dans ce temps-là. Là.
Ouais, c'est plus difficile pour le lien, je dirais. Puis j'ai des groupes spéciaux, là. J'ai un des groupes que ça leur dérange pas d'ouvrir le micro, qui sont super à l'aise de participer. Un autre groupe qui est plus mon groupe d'écrivains, je les appelle comme ça. Donc, eux, le micro, ça fonctionne pas. Donc, ils m'écrivent par le clavardage. Fait que là, des fois, il y a un délai entre le temps qu'ils tapent les réponses puis quand je pose ma question. Je suis comme pas sûre. Ouais. Allô, est-ce que vous êtes là? Là, j'attends. Là, finalement, les réponses rentrent. Là, je suis comme, ah, OK, je suis pas toute seule. Phew.
Mais je trouve ça super que tu t'es adaptée. Par contre, tu n'as pas décidé d'imposer. Tu sais, ils n'ont pas le choix d'utiliser telle chose. Tu es allée avec un respect de comment ils ont envie de te communiquer. Donc, tu t'adaptes à le clavardage qui est peut-être imparfait, mais qui fait qu'ils peuvent communiquer puis qu'ils se sentent probablement plus à l'aise que si tu forçais. Forcés à aller contre nature, finalement, puis contre ce qu'ils sont.
Oui, effectivement. Mais je pense qu'il faut s'adapter à notre clientèle.
Effectivement. Il faut aller les chercher où ils sont, puis peut-être que, justement, en respectant ça, ils vont être plus ouverts plus tard à essayer autre chose. Mais si on essaie trop de forcer, des fois, on brise ce lien de confiance-là, je pense.
Je pense que c'est aussi la façon d'avoir des réponses à mes questions puis d'avoir leur participation. Si je les oblige, je suis pas sûre que ça va avoir le même effet de les obliger à ouvrir le micro. Je pense que je vais juste les perdre.
Effectivement. Fait que t'es allée, t'as su t'adapter puis dire, bon, il y a un clavardage, ils vont me le mettre par écrit. C'est sûr que ça, comme tu dis, là, ça, il y a un petit délai, faut s'adapter, faut, je pense que c'est le mot de l'année, ça. S'adapter, être flexible, ça oui. A été ça pas mal toute l'année pour tout le monde, hein.
Oui, en effet. Donc, la COVID nous a appris à relever beaucoup de défis, comme je disais, moi, des défis technologiques aussi. Des fois, gérer les bugs de Teams, je suis pas la meilleure personne. Un élève qui est pas capable de se connecter au cours, je suis comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? » Mais je suis la meilleure, j'ai appris. Donc, apprendre comment faire des caoutes aussi, faire des quiz interactifs, des choses comme ça, c'est assez simple, mais...
Mais quand même, si on n'en avait jamais fait, c'est toute la nouveauté qu'il faut apprendre, là, effectivement.
Oui, c'est une autre façon de varier ses approches.
Je suis curieuse, est-ce qu'il y a des choses que tu garderais dans ta classe après? Est-ce qu'il y a des méthodes de travail? Là, je te lance une question pas planifiée, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises pendant la COVID avec cet enseignement à distance-là que tu as envie de garder plus tard ou des stratégies que tu vas appliquer même si on revient 100% comme avant?
Oh, bonne question. Je sais pas pour vrai. C'est une super bonne question. J'en ai aucune
idée. Ça dépend aussi de l'accessibilité à des appareils, là. Si t'en as pas dans ta classe, ça va être difficile. Je pense pas que tu vas faire du clavardage s'ils sont live devant toi, là, mais...
Ben, je pense que tout l'aspect, mettons, quiz interactif dont je parlais, c'est déjà quelque chose qu'on faisait en classe, mais différemment, pas avec le Kahoot, puisque je travaille dans une école où le cellulaire, donc, est vraiment interdit dans les corridors, dans les classes, puis tout. Moi, j'y allais plus avec Plickers, qui est un jeu interactif, ouais, avec des cartes de vote, là. Ils doivent juste tourner la carte dans le bon sens, puis donc, c'est des codes QR qu'on peut scanner avec notre téléphone. Fait que ça, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais tu sais, j'aimais l'idée de faire une petite compétition aussi à travers ça, de les motiver à étudier pour avoir des points pour gagner une petite récompense. Nous, on fonctionne avec des bons mérites. Ces bons mérites-là servent à acheter des trucs au magasin scolaire. Ça peut être de les accumuler aussi pour participer à des tirages. Donc, on faisait tirer des cartes cadeaux, des trucs comme ça cette année. Donc, tu peux garder tes bons mérites puis t'inscrire au tirage pour gagner quelque chose. Fait que, tu sais, c'est ça, il y avait toute la notion de récompense aussi, de si tu as bien étudié, tu as bien réussi le quiz, tu vas gagner un bon mérite. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime toujours faire.
Ben ça, c'est un peu le principe des chaos et autres, là, où il y a un gagnant, puis il y a... Ben oui, fait que c'est de transposer ça, c'est bien, c'est super. C'est une belle motivation pour certains. D'autres vont être motivés différemment, mais ça peut aller chercher... certains que ça va motiver. Oui. En terminant, est-ce que tu as des conseils pour des enseignants qui débutent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ou encore des enseignants qui, présentement, là, sont plus au bout du rouleau puis sont un peu tannés. Qu'est-ce que tu dirais à... Là, je suis consciente que je t'envoie comme deux questions peut-être différentes, quoique des fois, les conseils peuvent s'appliquer aux deux. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces enseignants-là?
Pour les enseignants novices, j'irai avec le conseil que j'ai déjà écrit dans un de mes billets sur Espace Prof, mais c'est vraiment d'aller vers tout le monde, parle à tout le monde, reste pas dans ton coin. T'es probablement un nouveau à cette école-là, ou en tout cas, si c'est ta première école ou quelque chose comme ça, ou tu viens d'arriver dans le métier, va parler aux gens, reste pas dans ton coin, dîne avec les gens. T'sais, là, je sais que c'est la COVID qu'on peut moins le faire, puis c'est un peu plus compliqué. Mais va parler à tout le monde, puis si t'as besoin d'aide, pose des questions. Si t'as une période qui a moins bien été, va demander aux autres, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? OK, il y avait tel élève qui dormait dans ma classe, je sais pas, je nomme vraiment n'importe quel exemple.
Oh, ouais.
Mais, tu sais, va poser des questions, ce serait le conseil que je donne. Va parler à tout le monde de l'équipe école. C'est important de se faire des alliés à travers tout ça aussi, de se faire des gens en qui on a confiance, puis d'aller chercher les conseils un peu partout. Fait qu'il y a quand même une très grande humilité qu'il faut avoir aussi avec ça, puis je pense que c'est un mot à retenir. C'est quand on sort de l'université, on sait vraiment pas tout. Donc, je pense que notre métier s'apprend sur le terrain plus qu'à l'université. C'est drôle à dire, mais je pense qu'on fait beaucoup plus d'apprentissage quand on est vraiment dans la classe, en train d'enseigner. Puis il y a une certaine humilité à travers tout ça. Le fait de savoir qu'on ne sait pas tout. Fait que d'aller chercher.
Je pense même que c'est pas juste pour ceux qui débutent. On sait pas tout. On va rencontrer, par exemple, ça peut faire 15 ans qu'on enseigne, puis on va rencontrer une problématique en classe qu'on n'avait jamais vue, mais que... Puis je te le relancerai de l'autre côté, je peux poser des questions à l'enseignante, même si ça fait 15 ans que j'enseigne, l'enseignante qui vient de débuter, ben peut-être que dans ses stages, elle a vu une situation puis qu'elle a eu l'information puis que ça va m'éclairer sur quoi faire. Je pense qu'on a tous quelque chose à s'apporter puis qu'il faut justement pas rester dans notre coin en disant ben là, ça m'arrive à moi, puis c'est parce que si je le dis aux autres, je vais être jugée ou ils vont penser que je suis pas une bonne enseignante. Ça peut faire 25 ans qu'on enseigne, puis justement, on veut trouver une nouvelle façon d'aller justement réveiller l'élève qui s'endort tout le temps en classe, puis peut-être que toi, Caroline, tu le connais depuis 2 ans, cet élève-là, puis que tu sais ce qui se passe, puis tu as de l'information que moi, j'ai pas. Je trouve que c'est important justement de briser ces silos-là, puis pas avoir peur du jugement. On travaille tous pour avancer pour les élèves, puis s'améliorer, nous, pour les élèves et pour nous-mêmes, là. Donc, je pense que c'est un conseil pour tous, même pas juste pour ceux qui débutent.
Non, en effet. Même même un conseil aussi qui s'applique à des gens qui sont peut-être un peu plus fatigués dans leur métier ou quelque chose comme ça, c'est va voir les autres, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va me faire plaisir, ma porte est toujours ouverte pour jaser avec des gens, là, mais j'aime ça parler, mais c'est ça, mes collègues le savent que s'il y a quelque chose, ils peuvent venir me voir, puis s'il y a quelque chose que je peux faire, ou tu sais, si t'as besoin d'un défi, veux-tu qu'on crée un nouveau projet, ça pourrait être quelque chose comme ça. Okay. On remarque que nos élèves, ils ont des difficultés dans, par exemple, la lecture ou des choses comme ça, ils aiment pas lire leur roman, puis là, toi, ça te déprime, t'aimes pas ça, ou t'es fâché contre toi, tu te dis, coudon, est-ce que c'est moi qui fait pas bien ça, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Veux-tu qu'on invente quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on essaie une nouvelle stratégie? Est-ce qu'on essaie une nouvelle façon de faire? Fait que moi, je suis très ouverte à ça aussi. Mais je pense que tout
passe... pas juste d'en parler, ça fait du bien aussi, là, de dire, ouais. Moi, il se passe ça, puis des fois, tu te rends compte que le collègue de la classe d'à côté, lui aussi, il vit la même affaire, puis juste de savoir que t'es pas tout seul, ça aide. Puis là, on passe les solutions après ça, effectivement.
Exact. Fait que c'est vraiment de s'entourer de nos collègues.
La force du réseau, oui. C'est important de pas rester seul, effectivement, puis de collaborer, puis de réseauter. Ça revient à ce que tu disais de ton milieu qui est super pour toi, où tu sens cette collaboration-là, c'est essentiel.
Oui, tout à fait.
Ben merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris du temps pour nous jaser. On peut te suivre sur le blog d'Espace Prof, aller lire tes textes, il y en a plusieurs déjà. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, très inspirante. Tu débutes en enseignement, là, mais déjà, tu as une sagesse de quelqu'un que ça fait longtemps qu'il fait ça.
Wow, merci, c'est un beau compliment, je suis vraiment contente. Puis, ben, merci de m'avoir donné la chance de participer à la balado, je suis très heureuse.
Super. À bientôt.
À bientôt.
Si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à vous abonner dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Vous pouvez aussi nous visiter sur le web à espaceprof.com ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.